Et voici le journal présenté par Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le chantier de Notre-Dame de Paris reprend aujourd'hui. Cela fait plus de 3 semaines qu'il est à l'arrêt à cause de la pollution au plomb après l'incendie de la cathédrale. L'inspection du travail a donné son feu vert uniquement sous certaines conditions.
En Italie, le corps du Français Simon Gauthier, disparu depuis 9 jours, a été retrouvé hier soir dans un ravin au sud de Naples. Le jeune homme avait pu alerter les secours après une chute, mais il n'a pas pu être localisé à temps.
Aux États-Unis, l'administration Trump s'attaque aux droits des personnes transgenres. La Cour suprême va devoir trancher pour savoir si oui ou non une personne trans peut être licenciée par son employeur pour cause de changement de sexe. Un peu plus de 3 semaines après son interruption, le chantier de Notre-Dame de Paris reprend donc ses droits ce matin. 3 semaines pendant lesquelles la mairie de Paris a œuvré pour éliminer la pollution au plomb. Les mesures de l'Agence régionale de santé ont en effet mis en exergue des taux bien trop élevés depuis l'incendie de la cathédrale. Désormais, le chantier peut redémarrer. Hugo Charpentier, les prescriptions de l'inspection du travail seraient à nouveau respectées.
Les fonctionnaires de l'inspection du travail ont effectué une visite complète du chantier en milieu de semaine dernière. Selon André Finot, le porte-parole de Notre-Dame, tout est désormais en conformité avec notamment l'installation de 2 nouveaux sas de décontamination. Un pour les hommes, un pour les femmes, des sas plus grands qui permettent aux ouvriers de se changer, de se mettre en combinaison mais surtout de se doucher. Dès ce matin, 60 d'ouvriers sont donc de retour au travail avec une priorité, poser les 28 cintres sous les arcs-boutants de la nef afin de les consolider et limiter ainsi le risque d'effondrement de la voûte. Ensuite, il faudra songer à l'installation d'un parapluie permanent, sorte de grosse bâche qui englobe le bâtiment pour le protéger des intempéries. Et puis d'ici le printemps prochain, les architectes prévoient la construction d'un plancher temporaire sous la nef. C'est la dernière étape avant de pouvoir enfin réaliser un diagnostic complet du monument.
Hugo Charpentier. Et Paris qui célèbre aujourd'hui les 75 ans de sa libération, le 19 août 1944, marque en effet le début de la semaine qui a libéré la capitale du joug allemand après 4 ans d'occupation. C'est la préfecture de Paris qui est le premier bâtiment officiel à être libéré. Des cérémonies auront lieu dimanche dans la capitale pour célébrer ce Paris outragé, brisé, martyrisé. Mais libéré. Ce Paris libéré, selon la formule que vous connaissez bien du général de Gaulle.
En Italie, les recherches ont abouti hier en fin de soirée. Le corps du Français disparu depuis 9 jours a été retrouvé.
Simon Gauthier était parti seul en randonnée dans le sud de Naples. Il a été retrouvé au fond d'un ravin par les équipes de secouristes. Il avait réussi à prévenir les secours après sa chute, mais le jeune homme de 27 ans n'avait pas pu donner précisément sa localisation et n'a pu être retrouvé à temps. Ce matin, Antonino Gallofaro, les secouristes sont toujours sur place.
Le corps de Simon Gauthier doit être récupéré aux premières lueurs de l'aube, cela pour des raisons de sécurité des secouristes et de visibilité, comme l'explique le secours alpin qui est resté toute la nuit auprès du jeune Français de 27 ans disparu il y a 10 jours. La région est en effet difficile d'accès. Le Cilento, cette région côtière au sud de Naples où il se trouvait, n'est que falaise escarpée tombant dans la mer. C'est ce même secours alpin qui a retrouvé Simon Gauthier hier en début de soirée. Il a d'abord identifié avec des jumelles un sac à dos, puis non loin, un corps sans vie au fond d'un ravin. La famille a été informée rapidement et se trouvait sur place comme des amis du randonneur qui étaient auprès de bénévoles mais aussi des spécialistes impliqués toute la journée d'hier dans les recherches. Simon Gauthier n'avait pu donner que peu d'indications lorsqu'il a appelé les secours il y a 10 jours, seulement qu'il voyait la mer, son corps a en effet été retrouvé à 200 mètres de la côte. Il a expliqué être tombé d'une falaise et s'être cassé les 2 jambes. Les secours ont ensuite mis du temps à s'activer. Ils n'ont pas réussi à géolocaliser son téléphone avant des recherches effrénées jusqu'à l'épilogue malheureux d'hier soir.
Les précisions d'Antonino Gallofaro, réaction ce matin du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui fait part de sa très grande tristesse, je cite, après l'annonce des secouristes italiens. Le gouvernement qui d'ailleurs entame sa rentrée à partir d'aujourd'hui, premier conseil des ministres attendu mercredi avec de nombreux dossiers à prévoir. Le chef de l'État, de son côté, pense d'abord au G7 qui se déroule à Biarritz à partir de ce week-end. Emmanuel Macron qui recevra son homologue russe Vladimir Poutine cet après-midi à Brégançon dans le Var. Un entretien suivi d'un dîner de travail entre les deux présidents. Vladimir Poutine qui ne sera pas au G7, toujours exclu pour avoir annexé la Crimée. Toujours aucune solution pour le navire humanitaire Open Arms. Il reste bloqué devant l'île de Lampedusa. Tous les ports italiens lui sont fermés. L'Espagne s'est proposée pour l'accueillir dans un port du sud du pays. Un voyage absolument irréalisable selon l'ONG qui accueille encore plus de 100 personnes depuis 17 jours. La France et plus particulièrement la maire de Lille, Martine Aubry, elle s'est dite prête à accueillir une quarantaine de ces migrants. C'est également le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui devient pour la première fois le pays européen avec le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Auparavant, il s'agissait de la France. Des étudiants, David Philippot, qui viennent de nombreux et de tous horizons.
Les premiers au classement sont les étudiants chinois. Ils sont 37 000 à s'être inscrits l'an dernier, deux fois plus nombreux que les Indiens, les Autrichiens, les Russes, les Italiens et les étudiants syriens. Ils sont 8 600, figurent également dans le haut du tableau. Selon un sondage du site web européen study.eu, la qualité de l'enseignement est le critère numéro 1 dans leur choix. 83% des étudiants étrangers estiment qu'ils ont davantage de chances de trouver un emploi dans leur pays après avoir obtenu un diplôme allemand. À cela s'ajoute l'avantage pécuniaire. Le coût de la vie est généralement moins élevé en Allemagne et les études restent gratuites. C'est le critère numéro 2. D'ailleurs, la seule région à avoir instauré des droits d'inscription de 1500 euros pour les non-européens, c'est le Bade-Württemberg depuis 2 ans. C'est aussi le seul land à avoir accueilli moins d'étudiants, un recul spectaculaire de 19%.
Les précisions de David Philippot.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayol. À Hong Kong, des centaines de milliers de manifestants ont défilé hier encore pour demander plus de démocratie.
Une manifestation dans le calme, malgré les menaces d'intervention de Pékin, dont les chars sont toujours placés à l'entrée de la région autonome. À ce sujet, Donald Trump a mis en garde la Chine. Un nouveau Tiananmen nuirait à un accord commercial entre les deux pays qui sont en quasi-guerre sur ce sujet depuis plusieurs mois. Donald Trump qui s'attaque aussi aux droits des personnes transgenres aux États-Unis. Son administration vient de saisir la justice pour autoriser les entreprises à licencier des personnes transgenres ou transsexuelles en raison de leur changement de sexe. C'est désormais à la Cour suprême de trancher ce contentieux, Grégory Phillips.
Il y a 6 ans, Aimé Stephen s'écrit à son employeur, une entreprise de pompes funèbres de la banlieue de Détroit, pour l'informer de son changement de sexe et qu'elle travaillera désormais en tant que femme. Son patron la licencie, mais le mois dernier, la justice donne raison à la salariée et condamne l'entreprise. Le tribunal invoque le Civil Rights Act de 1964 et qui interdit toute forme de discrimination et notamment celle en raison du sexe biologique d'une personne. C'est donc cette disposition que l'administration Trump attaque en saisissant la Cour suprême des États-Unis. Aux yeux du ministère américain de la Justice, le texte de 1964 ne peut s'appliquer aux personnes transsexuelles. Si la Cour suprême suit cette recommandation, alors cela permettrait à toute entreprise de licencier un employé en vertu de sa simple identité de genre. Ce n'est pas la première fois que cette administration Trump tente ainsi de limiter les droits des personnes trans. Depuis le printemps, elles n'ont plus le droit de s'engager dans l'armée américaine. Le gouvernement a aussi pour projet d'abroger une clause de la loi Obamacare qui protège les personnes transgenres d'éventuelles discriminations dans le système d'assurance santé du pays. Enfin, à l'automne dernier, Donald Trump avait confirmé qu'il souhaitait à terme restreindre la définition légale du genre afin que l'identité sexuelle soit considérée comme immuable et uniquement liée aux organes de la personne à la naissance.
Explication de Grégory Phillips pour France Culture. On est toujours sans nouvelles ce matin des marins chinois et ukrainiens enlevés en fin de semaine dernière dans le golfe de Guinée. Deux navires commerciaux ont été attaqués au large du Cameroun. Auparavant, la zone la plus compliquée pour les navires commerciaux était le golfe d'Aden. Ce n'est plus le cas désormais et ce pour plusieurs raisons, explique Jean-Marie Kemener, auteur du livre La République des Pirates.
Il y a une conjonction de facteurs dans le golfe de Guinée. D'une part, il y a un trafic commercial maritime plus important, qui se renforce. D'autre part, il y a des richesses donc qui passent au large, essentiellement pétrole, gaz, méthane, ce genre de produits. Et enfin, les populations qui sont laissées à l'abandon par leurs gouvernements respectifs, parce qu'il y a quand même quelques pays concernés, je pense évidemment au Nigeria, mais pas seulement, et ces populations-là viennent aller les chercher jusqu'à les pirater. On est probablement la zone qui s'est en termes de piraterie, celle qui est la plus active à l'heure actuelle, sachant que le golfe d'Aden, effectivement, a été très actif, mais ne l'est plus depuis qu'il y a une protection internationale, pour parler clairement, ce sont des bateaux de guerre, et une surveillance très particulière jusque sur les bateaux de plaisance. Mais typiquement, le bateau de plaisance, dont on parle souvent parce que ça fait des histoires personnelles dramatiques, c'est généralement pas le but du pirate. Hein. Le pirate va aller chercher un produit qui peut le revendre au marché noir, type baril de pétrole. Vraiment, j'insiste. Alors, spécialement dans le golfe de Guinée, c'est souvent ça.
Le journaliste Jean-Marie Kebener avec Antoine Ferreira. Le temps de ce lundi, les nuageux et pluvieux sur l'est du pays. Une dégradation orageuse s'étend du nord de la vallée du Rhône à la Bourgogne jusqu'au sud de l'Alsace. Sur le reste du pays, soleil voilé et température en baisse de 10 à 14 degrés ce matin. Un journal qui a été préparé avec Julien Loca et Nicolas Paumet.